pouvez chercher dans la Genèse au chapitre 37 et au verset 25. Genèse, chapitre 37, verset 25. On va lire simplement ce verset que je développerai un petit peu pour le replacer dans son contexte, mais vous connaissez fort bien ce récit. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Amen. Regardez cette caravane qui reprend sa route. Elle vient de Galaad, ses chameaux, peut-être attachés les uns aux autres ou se suivant de près, se rendent jusque à la lointaine Égypte. Et derrière, un de ces chameaux, attaché, sans doute les poings liés, se trouve un jeune homme, à moitié nu, on l'a dévêtu de sa tunique. Son dos a été certainement meurtri, ne serait-ce que lorsqu'il est tombé dans cette citerne dans laquelle ses frères l'ont jeté. Il est brisé dans son cœur, dans son âme, parce qu'il a été vendu par ses frères à ces Ismaélites qui l'amènent captif en Égypte. Il ne se fait pas d'illusions sur son sort, il va être vendu comme esclave et peut-être même rester dans cette condition jusqu'à la fin de ses jours. Il s'agit de Joseph. Pouvez-vous un instant vous mettre, pouvons-nous nous mettre à la place de ce jeune homme, rejeté, haï par ses frères, vendu, partant pour un pays lointain qu'il ne connaît pas, s'attendant à vivre des choses terribles, et il est obligé de suivre cette caravane qui ne lui laisse pas le choix, qui l'entraîne vers son destin. Mais jetez un coup d'œil à ce chargement, le chargement des chameaux. Il est dit qu'ils étaient lourdement chargés. Ils portaient des aromates, du baume et de la myrrhe. Et la Bible de nous préciser qu'il venait de Galaad, donc ce baume était du baume de Galaad. Est-ce que ça vous parle? J'aimerais ce matin vous parler du baume de Galaad. C'était un baume renommé, une sorte de pommade, d'onguent, un produit naturel d'origine végétale, de couleur jaune, qui dégageait une odeur épicée, une odeur suave, une odeur camphrée. Alors les jeunes ne connaissent peut-être pas l'odeur camphrée, les aînés se rappelleront de l'alcool camphré qu'on utilisait autrefois, ou de l'eau oxygénée camphrée, l'odeur du camphre. Ce baume de Galaad était utilisé pour soigner les blessures des soldats qui revenaient de la guerre. Jérémie le mentionnera à trois reprises dans son livre, qui est un livre douloureux, où il parle de la souffrance du peuple d'Israël à cause de ses péchés, et il dira: n'y a-t-il point de baume en Galaad? Ou encore: monte en Galaad, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. Ou encore dans un autre texte: prenez du baume pour s'appeler, peut-être guérira-t-elle. Le baume de Galaad. Cette résine qui provenait d'un arbrisseau pas bien grand, un petit arbre de 3-4 mètres de haut, on pouvait recueillir en blessant l'arbre 200 grammes de résine par arbre et par an, ce qui est fort peu, ce qui nous montre que ce baume était quelque chose de précieux. Ce baume était employé dans l'Antiquité comme vulnéraire, c'est-à-dire comme plante médicinale pour traiter les plaies, les blessures. C'est un antibactérien, un anti-inflammatoire et un antalgique. Ce sont les propriétés qu'on lui reconnaissait. Et tandis que Joseph est blessé dans son corps, et bien sûr dans son cœur, dans son âme, il sent les effluves de ce baume, on peut l'imaginer. Les chameaux sont lourdement chargés, il est attaché aux chameaux, il est en plein désert avec les rayons de soleil qui frappent et il peut sentir cette odeur suave du baume de Galaad. Et combien sans doute il aurait aimé que une main bien intentionnée passe sur ses plaies un peu de ce baume de Galaad, mais il n'y a pas accès. Alors je ne sais pas si ce matin parmi nous il y a des gens qui sont blessés dans leur cœur, dans leur corps, des personnes peut-être qui passent par des temps difficiles, éprouvants, au plan moral ou autre. En tout cas, je sais que les uns ou les autres, un jour ou l'autre, on a été blessé et on le sera sans doute encore. La vie n'est pas toujours facile. Et j'aimerais vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je suis venu avec un petit pot de Galaad, de baume de Galaad. D'ailleurs, je suis convaincu que vous en avez vous aussi. Montrez-moi votre pot de baume de Galaad, ceux qui l'ont avec eux. Oui, je vois quelques bibles qui se lèvent. Vous savez où je veux vous amener. Non pas dans une pharmacie, mais auprès de celui qui veut répandre sa bonne odeur et sa paix sur chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Joseph était victime de la méchanceté de ses frères. Son père ignorait, au moment où la caravane a redémarré, ce qui arrivait à son fils bien-aimé. Mais Joseph n'était pas abandonné. Nous ne sommes jamais abandonnés par le Seigneur. Alléluia. Le baume de Galaad. La Bible dit, dans le psaume 107 et au verset 20, « Il envoya sa parole et il les guérit. » Nous savons que si pour un temps, Joseph n'a pas accès à ce baume de Galaad dont il sent l'odeur et dont il rêve sans doute, quelques années après, il recevra de la part de son père du baume de Galaad. Alors que son père ne sait pas encore que l'homme qui a autorité en Égypte est son propre fils, tandis que les frères reviennent de l'Égypte en disant « Nous avons vu un homme, il nous a parlé avec dureté, ceci, cela. » Eh bien, Jacob les renvoie en disant « Amenez-lui un peu de baume. » Et quand les frères de Joseph vont revenir en Égypte, ne sachant pas, ne l'ayant pas encore reconnu, avec le baume, vous savez ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont se prosterner à ses pieds jusqu'à terre. Vous vous rappelez les rêves qu'avait fait Joseph? Il avait rêvé que son père et ses frères venaient se prosterner devant lui. Et je dirais que si Joseph, là, dans cette caravane qui descend en Égypte, n'a pas accès aux baumes de Galaad, dont il sent les effluves épicées, il y a dans son cœur un baume spirituel, un baume de Galaad, parce que Dieu lui a dit qu'il régnerait. Et frères et sœurs, je prie ce matin pour que la bonne odeur du baume de Galaad, la bonne odeur de Jésus-Christ et de ses promesses viennent, eh bien, avec ses effluves bénis, nous fortifier, tandis peut-être que la vie n'est pas si facile que cela, et nous rappeler que nous sommes en route vers le règne, alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit « Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Joseph ne partait pas seulement pour être esclave, ça c'était pour un temps, mais il partait pour régner. Et nous sommes en route vers le règne, frères et sœurs. Alors que ce matin, la bonne odeur de Galaad soit pour nous un puissant réconfort, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Pour recueillir cette résine précieuse, ce baume de Galaad, il fallait blesser l'arbre. Il fallait l'inciser. Et c'est ainsi que on pouvait, depuis la plaie de cet arbre, recueillir ce qui servait de base pour préparer le baume de Galaad. Comment ne pas y voir une image de l'œuvre de Christ au calvaire? La Bible dit, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. D'ailleurs, le mot « baume » contient la racine du mot qui veut dire « écraser » ou encore « faire craquer », c'est-à-dire exercer une pression. Combien le Seigneur a subi de pression. Nous savons que déjà à Gethsémané, avant même que les clous ne perforent ses pieds et ses mains, eh bien son front ruisselait de grumeaux de sang, tant il était comme comprimé, écrasé par le poids de nos péchés. Le mot Galaad veut dire dur, rugueux. Comment ne pas penser à ce bois de la croix, ce bois dur et rugueux qui pourtant a fourni le baume le plus apaisant qui soit. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et c'est par son châtiment que nous avons la paix. Peut-être ce matin, quelqu'un est-il blessé dans son âme, dans son cœur, par les épreuves de la vie? Il y a dans la parole de Dieu pour toi ce matin la consolation que le Seigneur veut te donner. Peut-être quelqu'un est là, blessé par toutes sortes de contraintes, de tensions sociales, peut-être même de tensions fraternelles, entre guillemets, de disputes. Il y a dans la parole de Dieu cette bonne odeur de Christ qui nous rappelle ce que Christ a subi de la part de son peuple, de ses frères, et qui nous invite et nous donne la force de pardonner. Il y a peut-être au milieu de nous quelqu'un qui est sous la pression de la tentation par quelque péché qui, comme une bête, vient se coucher à ta porte, comme au temps de Caïn. Eh bien, il y a dans la parole de Dieu cette bonne odeur de Jésus-Christ qui a résisté au péché et qui n'a jamais commis, alors qu'il était tenté en toutes choses, et qui est à même et capable ce matin de nous délivrer de la tentation, de nous délivrer du péché. Il y a peut-être quelqu'un dont la communion avec Dieu a été comme distendue, comme abîmée, endommagée, et tu sens que ta communion avec le Seigneur n'est plus ce qu'elle était. Oh, que la bonne odeur du baume de Galaad vienne réveiller tes affections pour Christ. Et que ce matin, eh bien, tu puisses être renouvelé. Les blessures de l'âme, les blessures du cœur, les blessures du corps. Applique ce baume ce matin. Applique-le tout au long de ta vie. Ne laisse pas le baume dans le pot. Vous savez, tant que le baume est sur les chameaux, eh bien, il ne peut pas soulager les blessures de Joseph. Tant que l'onguent est dans le pot, il ne peut avoir aucun effet sur nos blessures. Il est inefficace. Il faut prendre le pot, il faut prendre l'onguent et le passer sur nos plaies. De la même manière, eh bien, nous devons user de la parole de Dieu. Ne la laissons pas à côté de nous. Mais mettons-la dans notre cœur, cherchons la parole de Dieu, cherchons à la mémoriser. Vous avez tous fait cette belle expérience de recevoir le baume de Galaad. Vous savez, quand on lit la Bible et puis que tout à coup, il y a comme un verset qui se détache, qui correspond à ce dont vous avez besoin, à la circonstance dans laquelle vous êtes, et qui vient comme vous apaiser, vous soulager, vous avez le sentiment que le Seigneur vous parle, vous dit quelque chose à vous personnellement. Eh bien, c'est le baume de Galaad, c'est ce baume spirituel, c'est le Saint-Esprit qui est en train, eh bien, de panser vos plaies, de guérir vos blessures. Parfois, c'est de notre mémoire que surgit le texte. Nous n'avons pas la Bible ouverte devant nous, mais il y a un verset qui s'impose à notre esprit. Ne soyons pas distraits. Ne passons pas à autre chose. Mais gardons ce verset dans notre cœur, méditons-le. Le Seigneur veut certainement nous dire quelque chose à ce moment-là. C'est une parole de Dieu appropriée que nous devons garder dans notre cœur. Je pense à cette grand-mère du nom d'Edwige, du prénom d'Edwige, que j'ai bien connue. Elle était dans une église dans laquelle nous servions le Seigneur. Et un matin, elle se réveille, c'était 4 heures du matin. Elle se réveille subitement, elle n'a plus sommeil. Alors elle est étonnée, elle se lève, elle se prépare une tasse de tisane. Et alors qu'elle est en train de boire sa tisane, tout à coup elle se dit, c'est quand même drôle. Seigneur, pourquoi d'un coup j'ai plus sommeil comme ça, moi qui suis une grosse dormeuse, peut-être tu veux me dire quelque chose. Alors à côté de sa tasse de tisane, elle prend la Bible, elle ouvre la Bible et ses yeux se portent sur un verset. Elle lit « Le méchant ne triomphera pas toujours ». Et elle ne comprend pas ce que le Seigneur veut lui dire, mais elle comprend que le Seigneur lui dit quelque chose. Et la journée se passe. Elle oublie cela, elle oublie ce verset, elle oublie ce qui s'est passé. Et dans l'après-midi, elle va à la banque pour retirer un peu d'argent. Et au moment où elle va pour entrer dans la banque, quelqu'un la propulse à l'intérieur. C'est un jeune homme avec une cagoule et un revolver. C'est un braquage. Et au moment où elle est précipitée par le voleur dans la banque, elle se souvient du verset « Le méchant ne triomphera pas toujours ». Et à ce moment-là, cette petite grand-mère est plus forte que le voleur. Et alors qu'il est en train de braquer la banquière, elle lui dit « Jeune homme, c'est pas bien ce que vous faites, Dieu vous voit !» Et elle est en train de lui parler du Seigneur. Et le voleur de lui ordonner de se taire. Mais pendant qu'il ramasse les billets, elle continue à lui parler. Et puis le voleur prend les billets et s'en va. Le directeur arrive, il descend de son bureau, tout le monde est là, tremblant. Et elle dit au directeur, on ne va pas le laisser partir comme ça, on va prier, parce que vous savez, Dieu me l'a dit cette nuit, le méchant ne triomphera pas toujours, il va être arrêté, on va prier. Et le directeur, il ne sait pas trop que dire, que faire. Et cette grand-mère de prendre le directeur par le bras, et puis une cliente qui était là un peu affolée, la caissière était toujours derrière son guichet, elle prie, Seigneur, tu m'as dit, le méchant, etc. Et pendant qu'elle était en train de prier, deux policiers arrivent avec le voleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au moment où il est sorti de la banque, et qu'il partait avec son argent, il voit une voiture de police qui passe. Mais il n'y avait pas de gyrophare, ni de sirène, ni rien. C'était un simple passage, il passait dans cette rue. Sauf que lui, qui n'avait pas bonne conscience, il a cru que c'était pour lui. Alors il a vite jeté l'argent sous une voiture en stationnement, et il est parti en courant. Et les gendarmes ont vu dans le rétroviseur un gars qui partait en courant et qui sortait de la banque. Ils ont dit, c'est pas clair. Alors ils ont ramené le gars avec l'argent, pendant que la grand-mère était encore en train de prier. Et vous savez ce qu'a dit le gendarme? Il a dit, vous savez, si ça s'est bien passé, et il ne parlait pas là de l'arrestation, mais si ça s'est bien passé dans la banque, c'est grâce à la foi de cette grand-mère, le baume de Galaad. Je pense à ce pasteur qui fait un infarctus un vendredi soir. Il ne faut pas tomber malade le week-end en France, vous le savez ça? Évitez de tomber malade le week-end en France. Et comme il habite à 200 mètres d'une petite clinique, au lieu d'appeler les pompiers, il va à pied à la clinique. Seulement, vous voyez, quand le vendredi soir, vous arrivez à la clinique à pied en disant « je fais un infarctus », vous n'êtes pas pris très au sérieux. Le cardiologue n'était plus là, c'est un interne qui s'occupe de lui, et on le met dans une chambre, et on lui dit « lundi, eh bien, vous aurez les examens qu'il faut ». Et pendant tout le week-end, il se bat entre la vie et la mort. Sauf qu'à un moment donné, il y a un verset qui lui revient en mémoire. Ah, le baume de Galaad. Un verset qui lui revient en mémoire. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Et pendant tout son week-end, alors qu'il n'a pas de traitement particulier, un petit cachet par-ci, par-là seulement, eh bien, il confesse ce verset, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. » Béni soit le Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'il est mort? C'est le cardiologue qui a failli mourir. Hein, parce que quand il a vu le lundi matin, quand il a vu son patient, il a dit, « Mais cet homme, il aurait dû mourir trois fois pendant le week-end. » si tant est qu'on peut mourir trois fois. Je vous laisse apprécier le baume de Galade. Je pense à cet homme qui vient voir un jour le pasteur. Sa femme a eu un grave accident de voiture. Elle est dans le coma. Elle est même depuis des mois dans le coma. Elle est même dans ce que l'on appelle le coma dépassé. Cette histoire que je vous raconte a peut-être une trentaine d'années. Aujourd'hui, les médecins n'agiraient pas comme cela, mais il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Et les médecins ont convoqué le mari en disant, vous savez, on va débrancher les machines. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Elle n'est plus vraiment là. Elle respire parce qu'elle a une machine qui la fait respirer. Mais... Et le mari, qui aime sa femme, qui a encore quatre enfants, dont certains en bas âge, dit au médecin, « Laissez-moi trois jours de réflexion. » Il va voir le pasteur, il sonne à sa porte, et bien sûr, le pasteur savait ce qui se passait, il était déjà allé visiter la malade, mais là, il lui dit, « Pasteur, voilà, les médecins me disent qu'ils veulent débrancher. » Et au moment où il dit cela, vous savez, ce n'est pas toujours facile pour un pasteur de donner une réponse. Hein. Mais au moment où il lui dit ça, sur le pas de la porte, la sonnette finit à peine de retentir, qu'un verset s'impose à l'esprit du pasteur, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et il dit à cet homme, « Eh bien, demandez-leur de ne pas débrancher, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et donc le mari va trouver les médecins et il demande de ne pas débrancher. Et pendant les trois jours, l'Église a prié, bien sûr déjà l'Église priait, mais l'Église a redoublé la prière et cette femme est revenue à la vie dans une parfaite santé. Béni soit le Seigneur, le baume de Galade. Vous savez cette odeur particulière, cette parole qui apaise, qui encourage. L'épreuve est encore là. Les chameaux sont encore en train d'aller en Égypte. Mais, il y a un environnement. Au milieu de cette détresse, de ce soleil brûlant, de ces plaies dans le dos, il y a un environnement. Quelque chose flotte dans l'air. Ici, c'est quelque chose de physique, mais vous comprenez que je vous parle de quelque chose de spirituel. Sachons reconnaître la bonne odeur du baume de Galade, ces promesses de Christ, cette présence de Dieu, cet amour de Jésus qui nous entoure et qui nous dit comme autrefois à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus parle à son Père et il se positionne comme s'il était déjà mort et ressuscité, comme si la croix était déjà une vieille histoire. Il n'y a que Dieu, vous savez, qui peut faire comme ça, hein, qui peut parler de la fin d'une chose avant qu'elle ait commencé. Et alors qu'il parle avec son Père, alors qu'il prie, vous relirez, si vous voulez, ce chapitre 17 de l'évangile de Jean qui est magnifique, Jésus jette un regard, un peu comme s'il faisait le bilan de son ministère terrestre, du temps qu'il a passé au milieu des 12. Et il s'entretient avec son Père et il leur parle de ce temps, de ce qu'il a fait pendant ces 3 ans et demi. Et c'est étonnant de voir combien le ministère de Jésus est basé sur, non pas tant ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit, sur la parole. Il est vrai qu'il est lui-même la parole. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il a envoyé sa parole, il est guéri, il les a guéris. Bien, l'accomplissement de cela, c'est la venue de Jésus, la parole qui a été faite chair. Jésus dira à son Père certaines choses. Et dans ce bilan de son ministère, nous pouvons voir quelques vertus du baume de Galade, du baume spirituel de Galade. Par exemple, la connaissance de Dieu. Il dit à son Père, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Comment est-ce que les 12 ou les 11 plus précisément ont connu Dieu, ont cru en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu? Comment? Eh bien, au travers de la parole. Il ne dit pas au travers des actes, même si les actes étaient le fruit de ses paroles, la démonstration que ces paroles étaient vraies, mais à cause des paroles. Je leur ai donné des paroles. Ils les ont gardées et ils ont cru et ils ont connu. Connu dans le sens, ils savent avec assurance, avec conviction. Frères et sœurs, la Bible, c'est le meilleur des onguents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre un peu de pommade de temps en temps, mais c'est une pommade spirituelle. C'est un baume divin. C'est au travers de ce baume que l'on peut connaître Dieu, que l'on peut recevoir la foi et triompher des épreuves, la connaissance de Dieu, la joie, la joie. Dans ce même chapitre, Jésus dit ceci, « Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Plus nous lirons, nous méditerons la parole de Dieu, plus nous connaîtrons Dieu. Et plus nous serons remplis de sa joie. Sa joie. Afin qu'ils aient en eux, non pas de la joie, mais qu'ils aient en eux ma joie. Et comme si ça ne suffisait pas, pour être sûr qu'on comprend bien, le texte dit « ma joie parfaite ». On le sait que la joie de Jésus, elle est parfaite, mais c'est quand même dit. Il y a tant de choses dans la vie qui viennent nous ravir notre joie, c'est pas vrai ? La fin des vacances, par exemple. La reprise du boulot. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je dis ces choses dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as dit dans le monde et qui demeure jusqu'à ce jour au travers de ta parole. Oh, que Jésus soit béni pour toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche tandis qu'il était dans le monde. Ces paroles contenues dans un pot comme un baume, eh bien, sont à notre portée. Vous savez, il y a un danger par rapport à la Bible. C'est lorsqu'on a le sentiment, en ouvrant la Bible, qu'on connaît par cœur tous les récits de la Bible. Et des fois, on peut se dire, mais ça sert à quoi que je relise? Je connais tout ça par cœur. Il y a comme une habitude. Mais je voudrais ce matin réveiller en vous cet amour de la parole, ce désir de la parole, parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui est esprit et vie. C'est pas seulement de l'encre et du papier, c'est pas seulement quelques paroles numérisées dans une tablette ou dans un smartphone, mais c'est plus que cela, c'est esprit et vie, c'est la parole de Dieu, c'est la senteur du ciel, c'est les effluves qui viennent du trône même de Dieu. Et c'est cette parole qui nous permet de le connaître et d'avoir en nous sa joie parfaite. La sanctification, est-ce que nous en avons besoin dans le siècle où on vit? De la sanctification. Comment vivre dans le monde où on vit, où les tentations sont partout? Comment vivre la sanctification? Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Frères et sœurs, dans le siècle où on vit, combien nous avons besoin de cette bonne odeur du baume de Galade. Alors que nous sommes environnés par l'odeur du péché, par l'odeur de ce monde, l'odeur nauséabonde de ce monde incrédule et pervers, combien nous avons besoin de cette bonne odeur du baume de Galade. Nous avons besoin de lire la Bible, parce que lorsque nous lisons, lorsque nous relisons, lorsque nous méditons, eh bien c'est la bonne odeur de Christ qui vient nous apporter cette sanctification que nous ne pouvons pas avoir par la force de notre volonté seulement. Jésus dit encore dans ce texte, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. » L'unité. La parole de Dieu, c'est le vecteur de notre unité. Qu'est-ce qui nous unit ce matin ? Nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Et pourquoi sommes-nous réunis dans le nom de Jésus ? Parce que nous avons lu dans la Bible ce que représente le nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est notre unité. Vous savez, il y a certainement bien des choses avec lesquelles nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde. On ne peut pas être d'accord sur tout, et même par rapport à la Bible. Je suis sûr que si je prenais ce matin un texte un peu compliqué, comme il y en a parfois dans la Bible, et que je demande à chacun d'entre vous son interprétation de ce texte, on entendrait des choses peut-être même diamétralement opposées. Mais finalement, qu'est-ce qui nous unit ? Eh bien, c'est l'essentiel. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Je leur ai laissé ta parole afin qu'ils soient un. Et enfin, je termine. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et on sait comment il a fait connaître, on a commencé par là, c'est au travers de la parole. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Entendons par là que nous n'avons pas toute la connaissance, nous avons encore à apprendre sur Dieu. Même ceux qui sont convertis depuis des décennies. Nous avons tous à apprendre encore. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, écoutez bien, et que je sois en eux. Comment l'amour de Dieu va-t-il demeurer dans notre cœur, sinon au travers de la parole ? Comment Jésus fera-t-il sa demeure en nous, sera-t-il avec nous, sinon au travers du fait que nous croyons à sa parole et que nous la gardons dans notre cœur ? Frères et sœurs, je vous pose la question ce matin. Parmi tout ce que vous avez à la maison, parmi tout ce que vous possédez, y a-t-il quelque chose de plus précieux que la parole de Dieu ? On pourrait tout perdre, mais ne perdons jamais la parole du Seigneur. Lisons-la, méditons-la, nourrissons-nous de cette parole. Oui, Joseph est derrière ses chameaux. Il n'a pas de baume sur son corps, mais il a un baume dans son cœur. Il a fait des songes, il a fait des rêves qui ne sont pas le fruit de la fatigue ou de quelque chose d'autre ou d'un orgueil personnel, mais Dieu lui a parlé, Dieu lui a fait des promesses et c'est ça sa force. Il est en route vers l'esclavage, mais en réalité, il est en route vers le règne en Égypte. Nous vivons des circonstances pour les uns ou pour les autres, à un moment donné ou à un autre de notre vie, qui ne sont pas des circonstances faciles. Sans être enchaînés derrière un chameau, il nous arrive de suivre des chemins que nous ne voudrions pas suivre. Mais nous y sommes contraints par les contingences de la vie. Peut-être tu aimerais être ailleurs. Peut-être tu aimerais vivre autre chose que ce que tu vis en ce moment. Mais j'aimerais te rappeler que si ton cœur est à Christ, tu es en route vers la gloire. Tu es en route vers le règne. Il est, à l'heure où je te parle, lui, le Seigneur, en train de te préparer une place avec lui, dans le ciel. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'il veut que là où il est, tu sois toi aussi, afin que tu vois sa gloire. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez user de ce baume de Galaad. Je prie pour que ce matin, cette parole échangée soit sur votre cœur, sur votre âme et même sur votre corps pour ceux qui sont malades, plus que le baume de Galaad, la vieille ville, mais le baume de Christ, l'amour de Christ, la paix de Christ. Dans les Colossiens, au chapitre 3, au verset 16, il est dit « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. » Le baume de Galaad, dans toute sa richesse, qu'elle demeure en vous, non pas près de vous, non pas sur l'étagère juste derrière vous, mais que la parole de Christ, non pas la parole d'un chef religieux, non pas la parole d'une dénomination, la parole dans laquelle nous croyons, c'est la parole de Christ, qu'elle demeure en vous, dans toute sa richesse. Amen. Et j'aimerais, avant de prier, dire peut-être à quelqu'un, s'il y avait parmi nous, je ne sais pas, quelqu'un qui n'ait pas encore donné son cœur au Seigneur Jésus. Je voudrais te dire, tu sais, nos pharmacies en France regorgent de pommades, d'onguents et de produits de toutes sortes. Mais le seul baume qui peut donner la paix à ton âme, qui peut te donner d'être profondément en paix au-dedans de toi, eh bien c'est lui, c'est Jésus, c'est sa parole. Pour toi, il a été blessé. Pour toi, il a reçu le châtiment de Dieu que l'humanité tout entière méritait, afin que ce châtiment qu'il a subi te donne la paix avec Dieu, le pardon de tes péchés et l'assurance du règne, l'assurance de la vie éternelle. Prions quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour toutes les fois où ce baume de ta parole nous a donné la paix, nous a ramené dans un climat de paix, peut-être même au sein de la tempête, mais nous a redonné espoir. Merci pour ce baume qui fait du bien à notre cœur, à notre âme. Merci Seigneur de nous faire sentir encore ce matin ces effluves suaves de ton amour pour nous, manifestés à la croix. Seigneur, renouvelle-nous encore dans l'amour de ta parole. Et Seigneur, je prie pour que lorsque mes frères et sœurs, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, dans les jours à venir, chaque fois qu'ils ouvriront ta parole, Seigneur, réveille, renouvelle, ranime, Seigneur, si cela était nécessaire, l'amour de ta parole dans nos cœurs. On peut s'habituer à une odeur et ne plus la sentir. On peut s'habituer à lire ta parole, Seigneur, et le faire de manière routinière. S'il te plaît, Seigneur, réveille en nous cette affection pour ta parole, que ta parole demeure en nous dans toute sa richesse. Au nom de Jésus. Amen.